Un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Bidubada, bébété, bébé.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21h.
Marie Richeux.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
La moquette recouverte de chips, la queue au distributeur de boissons, un nuage de fumée de cigarettes au balcon, quelques dragues secrètes près des escalators et les fameux habitués des écrans au chaud, voilà ce que l'on traverse et rencontre avant que d'atterrir dans cet entrelac de cercles aux allures de moteur et qui livre inspiration, récurrence, technique et jeu dans votre œuvre littéraire Jean Echenoz. Un continent avec ses logiques et ses courants contraires. Bien sûr, la machine semblant mettre à jour ses rouages ne s'en cache que mieux, car que montre-t-on de l'acte d'écrire au fond? Voilà près de 40 ans et 17 romans que vous en fabriquez, des machines littéraires, machines publiées en français aux éditions de Minuit et dans de très nombreuses autres langues dont l'exposition qui vous est consacrée à la BPI de Paris montre certains exemplaires. À la fin. Roman, Rotor, Stator, c'est le titre de cette exposition. Bonsoir et merci d'être là.
Bonsoir, merci.
Peut-être on peut reprendre le fil en 2011, lorsque vous décidez, finalement par un concours de circonstances plus qu'une décision, de donner vos archives, parce que des cartons étaient faits et que quelqu'un vous le demande. Ça se passe comment et pourquoi, Jean Echenoz?
Il faut dire qu'au départ, j'avais toujours trouvé ça un peu ridicule de donner ces vieux papiers, mais il est vrai aussi que c'était devenu des choses qui m'encombraient et que pour des raisons que j'aime pas trop, enfin, que je préfère pas rechercher, j'arrivais pas à les jeter parce qu'il y avait, bon, c'était des premières tentatives, ça aurait été vraiment jetable, mais il y avait des documents auxquels je tenais, des choses que j'avais trouvées en faisant des petites recherches. Et c'était au moment d'un déménagement et je me suis rendu compte que je n'avais plus assez de place pour ces quelques cartons. Et à ce moment-là, la directrice de l'époque de la bibliothèque Jacques Doucet m'a proposé de les prendre. Donc c'était pas mal parce que comme ça je m'en débarrassais et en même temps j'avais pas le geste un peu pénible de les mettre à la poubelle, quoi.
Et c'est un geste qui est quand même devenu le vôtre que de donner aux archives où vous vous êtes complètement laissé faire?
Laisser faire, non. Il y a des choses que j'ai pas eu envie de donner. Il y a des choses un peu personnelles. J'ai des espèces de cahiers sur lesquels il y avait des notes ou des préparations de romans, mais il y avait aussi, je sais pas, des numéros de téléphone, ce que j'avais fait dans la journée. Ça m'arrive très rarement de noter ce que j'ai fait dans la journée, mais c'est intéressant pour personne. Ou je sais pas, à la limite, des recettes de cuisine, quoi. Donc ça, je préférais, il y avait pas de raison de donner ça à une bibliothèque, ça l'aurait encore plus encombré.
Et les raisons de donner le reste, ce serait quoi?
Je sais pas. J'avais eu auparavant des propositions de donner ces papiers, et puis ça me paraissait toujours un peu dérisoire. Non, les raisons de donner le reste, c'est encore une fois, c'est que le fait de les descendre à la poubelle était un peu... Je sais pas, ça me faisait, c'était un peu attristant. Donc, les faire sortir de chez moi, c'était mieux. Maintenant, c'est comme si ça m'appartenait plus. Donc, c'est très bien.
Ce qui est attristant dans ces cas-là, c'est quoi? C'est de se défaire d'un lien qu'on aurait avec des livres qui appartiennent au passé. Ce serait se défaire de quel lien?
Non, c'est pas lié aux livres qui appartiennent au passé, puisque les livres qui appartiennent au passé ne m'intéressent plus. Je les relis pas, j'y pense pas. Je m'intéresse plutôt à ce que je pourrais éventuellement faire maintenant et après. Non, ce qui pouvait être un petit peu, je dirais pas blessant, mais disons égratignant, c'est de se défaire de papiers. Bah oui, sur lesquels on a passé du temps, auxquels on a fini par s'attacher, même si ce sont encore une fois des ébauches, des tentatives, et que c'est pas au point. Mais bon, on a travaillé là-dessus, et c'est un, on ferait mieux de jeter, en fait. D'autant plus que, on ferait mieux de jeter parce que d'autant plus que si m'arrive de, heureusement ça m'arrive jamais, mais si m'arrivait de voir des premières versions de romans, je trouverais ça terriblement humiliant, quoi. Les débuts sont éprouvants.
Toujours, aujourd'hui encore?
Oh, ah oui. Ah oui, commencer un livre, c'est exactement comme commencer un premier livre. Ça n'a pas bougé. Avec une dimension supplémentaire, c'est que c'est comme si c'était le premier, mais on ne peut pas refaire ce que, malgré tout, on a fait auparavant. Donc ça.
Donc il n'y a même pas la magie du premier, du tout début.
J'ai jamais retrouvé j'ai le souvenir pour le premier roman que j'ai écrit, j'ai le souvenir d'une liberté extraordinaire. Un sentiment de liberté, parce qu'au fond, bon, j'étais seul, je savais pas si j'y arriverais, je travaillais comme ça, enfin, j'avais le plaisir d'inventer cette forme, puisque j'avais jamais eu d'expérience de franchissement comme ça vers un roman. Et oui, ça, je me sentais très très libre. J'ai jamais retrouvé cette liberté. J'ai trouvé d'autres plaisirs à écrire, sinon je le ferais pas. Mais ces moments-là, c'était un souvenir assez joli.
Et vous l'avez cherché? Parfois, certaines personnes disent que justement cette première liberté ou ces premières sensations, elles sont si fortes que elles vont à la recherche. Vous avez cherché à retrouver cette première liberté du jeune écrivain de l'époque?
Je l'ai cherché à partir de... Je l'ai cherché et j'ai eu l'impression de la trouver au bout d'un certain nombre de livres. Parce que les premiers, je m'étais donné des espèces de cadres qui étaient des cadres de genre littéraire un peu. J'avais envie de me mettre à l'épreuve de ces genres-là qui étaient des genres plus ou moins considérés comme mineurs, quoi. Le roman d'aventure, tout ça. Mais... Après cette série de livres, ouais, je me suis senti, je crois, plus libre de mon temps, de mon espace, de la construction. C'était pas mal de sortir de ces espèces de contraintes qui n'en étaient pas vraiment.
Est-ce que ça provient du fait qu'à un moment donné, vous étiez consolidé dans cette fabrication des machines littéraires dont je parlais tout à l'heure, qui est un mot que vous utilisez? Pas forcément consolidé dans le statut social de l'écrivain, mais dans le fait que vous aviez rencontré une maison, un espace, un biotope, les éditions Minuit, où vous pouviez être un peu en liberté, justement.
Je ne crois pas que ce soit lié au contexte éditorial, ni à la place qu'on finit par avoir, qui est toujours à définir, parce qu'en fait, il n'y a pas de place. Enfin, moi, je n'ai jamais eu l'impression d'une place particulière. Non, c'était dans le mouvement de l'un à l'autre livre. Il y a des moments où je me sentais plus disponible, je sais pas, plus ouvert à des choses, peut-être moins intimidé aussi par la forme romanesque. Et en même temps, c'est toujours terriblement intimidant, et c'est toujours, comme je vous disais, un peu je répète, quoi, un peu humiliant les débuts. Bon, donc c'est un recommencement perpétuel.
Tout à l'heure, quand je regardais juste avant de commencer l'émission la liste que je donnerai tout à l'heure des manifestations qui sont autour de l'exposition à la BPI à Paris, je vous ai dit ça doit être très intimidant. Et vous avez dit ah non, vraiment, c'est pas le mot.
C'est pas tellement que ce soit intimidant, mais on se sent un peu extérieur, quoi, parce que ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Ce que j'essaie de faire tous les jours chez moi, non, c'est comme si c'était un objet un peu extérieur à moi-même, donc je le considère avec plus ou moins de sympathie, mais c'est pas moi, quoi.
Ça vaut aussi pour la manière dont vous entretenez une forme de conversation autour de votre travail littéraire depuis des années. Dans cette exposition, on voit des vidéos, il y a des extraits, des archives où vous parlez de votre travail. On se dit que finalement, ça fait un moment que vous parlez de votre travail. Là aussi, c'est quelque chose dont vous parlez de manière assez extérieure, où vous parvenez quand même à avoir un lien d'intimité avec ce que vous décrivez dans l'acte d'écrire.
Bah, parler de son travail, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est toujours parler un peu faussement, je crois. C'est de pas dire vraiment ce qui se passe parce qu'on sait pas ce qui se passe, sans doute parce qu'il y a quand même une grande part inconsciente dans ce qu'on fabrique. Non, parler de son travail, c'est s'exposer, hélas, au risque de raconter toujours la même chose. Ce que je crains de faire ici même.
Vous en êtes lasse ?
Oh, ça toujours. Non, j'ai pas beaucoup d'idées sur mon travail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de le faire. J'ai pas énormément de trucs, de choses à développer. Alors, je peux expliquer d'où viennent certains thèmes, comment j'ai pu procéder en cherchant des éléments, mais tout ça se passe, le travail lui-même, ça se passe dans un mélange d'illusions un peu mégalomaniaques, de contrôle absolu, et sans doute une part d'inconscience de ce qu'on fait. Quelquefois on se rend compte, après que le livre est terminé, de certaines choses qui se sont produites, et plus on pensait tout contrôler, plus... Il apparaît que des petites choses sont passées à votre insu, comme ça.
C'est pour ça que quand on rentre dans cette scénographie d'exposition avec l'entrelac de cercles qui fait penser à une mécanique très huilée, quasiment rationnelle de votre écriture, avec des repères de jeu, d'images, des thèmes, des manières de procéder, des cartes même, à la fois on a l'impression que la chose est rendue extrêmement visible, et quand on en sort, le caractère secret de la création de l'acte d'écrire est absolument intact. En fait, on se dit pas qu'on a compris comment vous écriviez. Vous le voyez comment, vous, quand vous circulez là-dedans?
Bah, ça, il est vrai que ça m'apprend pas grand-chose parce que ce sont des éléments que je reconnais, que j'ai pas choisi dans la grande majorité. Non, je sais pas. Ça m'apprend pas grand-chose. C'est comme un portrait ou une photographie ou un travelling qui décrirait un peu ce que j'ai pu faire pendant toutes ces années, mais c'est pas moi qui tenais la caméra, quoi. C'est une reconstruction, comme les lecteurs reconstruisent ce qu'ils lisent, comme les universitaires peuvent reconstruire aussi à leur manière ce sur quoi il travaille.
Ce qu'on voit d'assez impressionnant, c'est du temps qui est passé, assurément, puisqu'il y a des dates, puisqu'il y a votre visage, puisqu'il y a des images. On a vraiment cette sensation d'une œuvre, quand même. Est-ce que vous, ça vous parle, ce mot-là, l'œuvre littéraire ?
Non. Non, enfin, ça me parle quand je pense à des auteurs que j'ai lus, que je lis, oui. Moi, pas vraiment, parce que... Bon, même si toutes ces années, il s'est accumulé un certain nombre de livres, parce que tout ça ne me paraît jamais clos. Quand on pense à ce mot « œuvre », on pense à une chose plutôt fermée, achevée, tout ça. Et c'est pas mon cas, parce que j'ai toujours l'impression qu'il faut repartir sur autre chose, parce que ce qu'on a fait jusqu'ici, c'était une série de tentatives. Alors, si ces tentatives trouvent des lecteurs, bon, c'est très bien. Mais ce ne sont jamais que des tentatives d'arriver à un objet idéal auquel on n'arrivera certainement jamais.
Mais que vous visualisez, que vous imaginez.
Dont je n'ai aucune idée.
Ah oui.
Non, dont je n'ai absolument aucune idée.
Vous tendez vers un point fantôme, pas quelque chose de défini.
Ah oui, qui n'est absolument pas définissable. Non, c'est qui est tout simplement peut-être le désir de fabriquer des objets romanesques, tout simplement.
Ça met très très longtemps à mûrir, parce que généralement ça part d'une abstraction complète. Je ne pars pas d'une intrigue ou d'un fait divers ou de personnage. Mais je me dis, ah ben tiens, j'ai envie de dire quelque chose sur le terrorisme, ce que j'en pense. Ou je me dis, comme je suis en train de faire en ce moment, enfin depuis 6 mois, 1 an, j'ai envie de parler du cinéma, qu'est-ce que c'est le cinéma, quel effet ça fait, comment ça fonctionne. Et je pars sur une idée comme ça. À partir du moment où je me dis, j'ai envie de faire quelque chose qui traite du cinéma, ça ne me donne pas du tout un polar. Alors j'attends qu'il y ait des incidents qui me tirent l'œil, que j'ai un thème d'action que j'ai envie de mélanger avec le thème abstrait que j'ai eu au départ. Mais en revanche, à partir de là, il absorbe tout ce qui me tombe sous la main. Je lis des faits divers, n'importe quel bouquin, je vois n'importe quel film, quelque chose va se détacher de ce que je vois et venir s'agglutiner à mon idée. Et progressivement, il y a une intrigue qui se forme, je commence à avoir des gens et des actions. Et quand tout ça est relié, mais ça se fait tout seul, pour ainsi dire, quand tout ça est relié, j'ai un polar, il n'y a plus qu'à l'écrire, comme dirait l'autre.
C'est quoi le polar ?
C'est un genre de livre qui est, dès ses origines, produit directement pour le marché. Il est produit directement pour être vendu. Il n'est pas produit par quelqu'un qui a un mécène, par exemple, ou qui a des rentes et qui écrit pour l'amour de l'art. Il est écrit pour bouffer. Et dans la mesure où il est écrit pour bouffer, il devient la vérité du roman artistique, parce que le roman artistique aussi est devenu un objet de marché. Simplement, on cache ça, on n'en parle pas, c'est censé être de l'art, c'est censé être noble, le roman artistique, alors que c'est devenu une foire. D'ailleurs, on fait des foires à Francfort et à Nice et ailleurs, y compris pour le roman artistique.
On est en 1983, ça vous fait bien rire, la voix de Jean-Patrick Manchette, Jean Echenoz.
Pas seulement rire. Parce qu'il disait quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Ça, j'avais pas entendu le début. Je connaissais pas cet enregistrement. Il disait quelque chose qui me frappait, c'est qu'à partir du moment où il avait une idée, ça j'entends très bien. C'est comme s'il y avait une espèce d'effet magnétique qui fait que une fois qu'une idée est posée comme centre d'intérêt, même si elle est floue, très générale, comme il le disait. Ce qu'on lit, ce qu'on traverse, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ça attire un peu comme magnétiquement, comme s'il y avait des... On se met à recueillir en permanence des choses.
Il parle d'une abstraction première, qui serait cette fameuse idée, potentiellement floue. Et puis ensuite, il dit, à plusieurs reprises, il dit « j'attends l'action ». En fait, c'est vraiment la rencontre entre mon idée abstraite et l'action. Alors, en quoi ça vous parle, Jean Echenoz?
Ça me parle dans la mesure où lui part visiblement, enfin, dans ce qu'il disait là, de choses très générales, que ce soit le terrorisme, le cinéma. Moi, je pars sur des choses un peu plus concrètes, qui sont pas des domaines aussi vastes et aussi ouverts. Moi, je pars plutôt sur des lieux, par exemple, sur des pays, sur des paysages, sur une activité professionnelle, etc. Et je me mets à chercher, en effet, comme il le disait, des faits divers, des lectures, tout ce qui me tombe sous la main, qui, en effet, alimente une espèce de, je sais pas, de processus qui fait, au bout d'un moment, oui, il y a l'histoire. Et comme il disait, il n'y a plus qu'à l'écrire, ce qui est une autre histoire.
Et ça, c'est joyeux comme moment? Ce moment où justement ça magnétise et il y a plein de petites particules qui viennent comme ça à soi?
Oui, ça c'est un moment, en effet. Enfin, ça fait partie des moments qui sont plutôt heureux, oui, parce qu'on a l'impression que l'idée qu'on a eue, et c'est pas du tout... enfin, c'est très pratique, en fait, c'est très concret. On a l'impression que... À partir de cette idée qu'on a eue, ça, on se met un petit peu en chasse et on n'a pas besoin de se mettre en chasse. Les choses viennent souvent toutes seules. On peut entendre un bout de dialogue dans la rue, on se dit tiens, ça tombe exactement dans une scène qui pourrait fonctionner par rapport à ce projet que j'ai.
Ça s'agrège.
Ça s'agrège, oui. Oui, ça peut être des éléments d'architecture, ça peut être des sons, des couleurs.
Vous dites, Jean Echenoz, c'est
vole,
très...
On n'arrête pas de voler, de dérober des choses.
Oui, vous dites souvent que c'est être pickpocket que d'être romancier.
Oui, pickpocket, si on veut. En tout cas, c'est j'aime pas tellement le mot détourner, mais c'est recueillir et accommoder, enfin, en faire quelque chose, de choses très, très, très hétéroclites.
Quand vous insistez sur le caractère très pratique de ce travail-là, quasiment artisanal dans son temps, dans sa possible répétition aussi. Jean Echenoz, on entend que la question du statut social de l'écrivain ou de celui qui écrit des livres dans le monde collectif, dans notre société, est une question qui vous intéresse assez peu, voire que vous voyez pas trop de quoi on parle, d'une certaine manière. C'est assez présent, finalement, dans l'exposition à la BPI. On a plus l'impression d'un atelier de fabrique que d'une sorte de cahier d'inspiration. La question d'inspiration est vraiment pas quelque chose qui est tangible, qui est présent. Et pourtant, très souvent, vous racontez que dans l'enfance, vous avez désigné écrire des livres ou être écrivain comme étant la chose que vous deviendriez. Vraiment, je serais ça. Alors, c'était quoi?
C'était je serais ça si j'y arrive aussi. Et puis...
Mais il y avait déjà ça, je serais ça.
Oui, il y avait l'écriture, oui, mais qui n'était pas forcément du côté du roman. C'était, je crois... c'est un peu idiot de raconter ses souvenirs d'enfance, mais c'était du côté de l'activité pratique, de dessiner,
dessiner.
Écrire comme on dessine aussi. Ouais, c'est tracer des mots, c'était quelque chose que je trouvais très, je sais pas, très 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 attirant, très 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 aimable, intéressant. Et puis il y avait la lecture aussi qui était en contrepoint de tout ça. Donc l'idée de fabriquer des histoires, quelque chose qui est venu très tôt, mais d'abord j'ai mis beaucoup de temps avant de le faire. Et puis c'était pas associé au statut d'écrivain, qui est quelque chose qui me fatigue toujours un peu, quoi.
Jean-Patrick Manchette, il dit que d'une certaine manière, en écrivant des livres pour bouffer, en écrivant des polars pour bouffer, il atteint une forme de vérité artistique de son écriture. Vous en avez vécu finalement assez rapidement, de votre écriture, Jean Echenoz. Ça fait que ça donne aussi une dimension assez pratique finalement au fait d'écrire pour vous.
Sans doute. Et d'ailleurs, il le définit au départ, cette histoire de faire des livres, des romans policiers pour bouffer. Il dit, mais de toute façon, ne nous égarons pas, ça c'est aussi étendu à ce qu'il appelait la littérature d'art. Et pour laquelle il avait à la fois un profond mépris manifesté et en même temps, je crois, un intérêt très réel. Quand on lit son journal, on voit bien qu'il lit aussi beaucoup de choses qui relèvent de ce qu'il appelait la littérature d'art. Mais
ce roman noble dont il dit qu'il a été complètement récupéré par le marché de la même manière que tout le reste.
Bien entendu, oui. La littérature d'art est devenue évidemment une marchandise, comme prétend-il était le roman policier. Je crois que le roman policier était quand même aussi autre chose qu'une marchandise.
Ça se verrait
quand même. Je veux dire que c'est un genre qui a donné de très grands stylistes, de très grands prosateurs, que ce soit toujours les mêmes, je sais pas, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, et Horace McCoy, Jim Thompson, beaucoup d'autres. C'est pas seulement une machine alimentaire, c'est aussi une production de prose et de machinerie littéraire qui est impressionnante. Moi, ça a eu vraiment un rôle pour moi, cette forme littéraire.
Le 14 juillet 1983. Cher Jean Echenoz, à côté des énigmes nombreuses et saugrenues qui s'entrelacent dans ton Cherokee, le vrai mystère de ce bouquin, c'est qu'il tient debout et qu'il est passionnant et drôle. On ne sait pas pourquoi. Car enfin, ce n'est qu'un ramas de déchets, comme sont tous les romans contemporains. Et Cherokee est un ramas de déchets spécialement hétéroclites qui devraient se détruire les uns les autres. Ce métapolar référentiel, cette frénésie de description objectale, cette débauche d'allusions qui fait du faucon maltais un perroquet des bagoulants et latinistes, sans autre référence discrète, et puis cette écriture outrageusement précieuse et qui rit d'elle-même et de la misère de sa propre préciosité, tout ce bordel devrait être, au bout du compte, une autodestruction et un ratage, un sommet de l'effondrement. Or non, ça tient. D'une manière antiphysique, comme un château de cartes qui serait une brique. Tu me mets dans la perplexité, mais dans la perplexité enthousiaste. La seule chose que j'ai comprise, c'est le titre. Mais ce Cherokee qui devient Coco, c'est une affaire qui ne regarde que nous, et ton perroquet délirant, et l'ombre de Charlie Parker. Au total, je suis épaté car c'est épatant. Jean-Patrick Manchette.
Cette lettre de 1983 à Jean Echenoz est reproduite dans l'exposition qui vous est consacrée à la BPI à Paris. C'est un moment très... Bon, cette dernière phrase, « Je suis épatée car c'est épatant », évidemment, elle dit son admiration pour votre livre, mais je trouve qu'elle dit aussi beaucoup de choses d'une amitié discrète, enfin d'un lien discret. Il parle de références discrètes, de choses qui nous regardent. D'une part, qu'est-ce que ça fait que de montrer cette lettre-là et qu'est-ce que ça dit de votre lien avec lui ou avec d'autres auteurs? Vous parlez parfois de vos échanges avec Michon. Quelle est l'importance de ces échanges-là dans votre vie, dans votre vie littéraire?
Les échanges du côté de l'amitié, je crois, n'ont pas grand-chose à voir l'activité littéraire, je crois pas.
Pourtant, c'est de livres qui parlent dans cette lettre-là.
Oui, mais je crois que Jean-Patrick Manchette, bon, il m'avait écrit cette lettre de façon extrêmement aimable, avec en même temps toute une armada derrière que j'aime beaucoup. Mais le rôle qu'il a pu jouer par rapport à ce que j'ai pu faire, c'est pas tellement du côté de cette amitié qu'on a eue, qui était pas une, nous étions pas très proches, on s'est vus plusieurs fois sur pas mal d'années en effet, mais c'était surtout l'influence très grande de sa prose, de ses livres qui a été pour moi un peu déterminante, parce que autant beaucoup de lectures sont un peu comme des fenêtres possibles où on apprend des choses. D'abord, on est dans la passion de la lecture et en même temps, ça apprend des choses sur, accessoirement, sur comment écrire. Et autant les livres de Manchette ont joué un rôle un peu du côté de la porte, quoi. C'est quelque chose qui, sa manière, et pas seulement sa manière, mais le fonctionnement de ces livres m'a permis, je crois, de commencer à en écrire à mon tour.
Quand il parle de choses qui devraient complètement s'écrouler et ne travailler qu'un effondrement et que finalement ça tient debout, c'est ça qui vous plaît dans cette lettre, Jean Echenoz, entre autres?
C'est aussi ça. C'est un ramas de déchets et toujours, mais justement qu'on organise, qu'on monte, qu'on structure.
Au sens où vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire quand la mécanique de l'idée est mise en route, alors ça devient quelque chose de magnétique,
oui,
qui attire
moment,
les
et
déchets
moment,
et le reste.
Tous les déchets s'organisent dans une espèce d'entité dont on ne sait pas au juste ce qu'elle est, mais dont il vaudrait mieux qu'elle fonctionne à peu près.
Il dit ça tient debout, finalement. La surprise est là, en fait, chez Manchette. Ça tient debout, il y a un édifice qui est là.
Bah, ça, c'était un bel hommage.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, aux multiples relectures, aux dernières relectures, Jean Echenoz, vous vous dites, là, ça tient.
C'est quelque chose de cet ordre, où je me dis, de toute façon, je ne peux plus rien retrancher, je ne peux plus rien ajouter, parce que l'organisation que j'ai faite me paraît, oui, assez solide. C'est peut-être un leurre, mais il y a un moment où elle me paraît tenir par elle-même. Tant que j'ai pas ce sentiment, il faudra y revenir en permanence. Mais il y a un moment où ça me semble, les fondations sont à peu près établies. J'ai percé des fenêtres, j'ai rajouté des beaux windows, je sais pas, des choses comme ça. Et je fais le chauffage central, l'électricité, tout ça.
Donc ça tient plus de la maison que du bruit. Vous parlez souvent ou bien de la musicalité ou bien du bruit que font les textes. Moi, je trouve le bruit encore plus intéressant quand vous parlez du bruit des textes, du bruit de la langue. Évidemment, ce n'est pas un hasard si on faisait entendre Thelonious Monk juste avant et Remember. Vous avez parlé à plusieurs reprises de votre éblouissement à la découverte de la musique de Monk. Mmh. Je dirais même peut-être à sa manière de jouer. Hein. Vous parliez de la manière de Manchette. Il y a peut-être quelque chose d'encore plus important dans la manière de Monk. En quoi est-ce que votre littérature, alors, a peut-être à voir avec le BTP, mais aussi avec la composition musicale, Jean Leschnoz?
Il est vrai que quelle que soit la construction du livre, dernière recours, la chose qui compte vraiment dans la fabrication d'une phrase ou d'un paragraphe, etc., c'est le son. Il faut que ça sonne, il faut qu'il y ait des rythmes, quelquefois des rythmes boiteux délibérément, parce qu'il faut aussi que ça boite quelquefois, qu'il y ait des vraies fausses notes ou des fausses notes, qu'il y ait des syncopes, des choses comme ça, et qui ont sans doute, oui, à voir avec la musique, et spécialement, sans doute avec cette espèce de grand attachement que j'ai à la musique de Thelonious Monk, oui, qui est quelque chose pour moi très, très, très ancien. Ça, j'ai découvert ça dans mon adolescence, disons. Et c'était comme découvrir un peu un trésor, parce que je crois qu'il y avait cette ponctuation, ces sinuosités, ces faux retards, qui sont des effets extrêmement, au fond, pas très intellectuels, très, très sensuels, et en même temps, une construction très émouvante.
Dans cette exposition, il est question, par exemple, de jeux de langue, de jeux de rythme, qui sont d'un seul coup rendus extrêmement visibles par des citations, par des impressions comme ça au mur, comme s'ils étaient un des rouages importants. Au moment d'écrire, ça se passe comment? J'imagine que vous n'êtes pas à chercher ce rythme-là, ou ce jeu-là, ou ce rire dans la langue. Ou alors, peut-être au contraire, est-ce que vous êtes au contraire très à l'œuvre en train de le chercher, Jean Leschnoz?
Non, il y a des choses qui s'imposent un peu dans la façon de raconter une action, de décrire un paysage, une espèce de choix d'un vocabulaire, et puis comment ça s'agence. Mais c'est pas un effet de préméditation de ça, c'est une j'aime pas l'idée de petite musique, tout ça, ça m'a toujours j'ai toujours trouvé ça faux de parler de musique par rapport à ce qu'on écrit. Mais il y a, disons, une dimension de rythme, oui, d'enchaînement qui s'impose. Et puis il faut chaque fois un peu changer de forme en permanence, parce que prévenir les répétitions. La répétition, c'est quand même la mort.
Est-ce qu'il vous arrive de rire en écrivant?
Non, 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 non. De rire, non. Non, je peux sourire quand j'ai l'impression que j'ai trouvé un truc qui est susceptible de faire sourire. Mais de rire, non. Puis rire seul devant ma table, je me trouverais un peu ridicule, précisément.
Et en lisant?
Et en lisant
rire en lisant
Lire d'autres.
D'autres.
Oui, la dimension du rire, ça me paraît important. Même, mais le rire, c'est pas du côté forcément de la drôlerie, de la plaisanterie. C'est du côté de la jouissance littéraire aussi. On peut lire. De toute façon, les grands auteurs qu'on cite tout le temps, je pense, Proust, Flaubert, Beckett, bon, c'est. Le rire est permanent, mais c'est pas seulement le rire délibéré, c'est aussi le rire du plaisir extrême qu'on peut retirer de ça. C'est pas seulement c'est pas du côté de la drôlerie dit du comique.
C'est de la surprise que fait la langue.
C'est de la surprise, de l'ampleur, que c'est presque physique, cet effet-là. Quoi.
Rassembler tous les matériaux qui me sont nécessaires pour la construction d'un livre. Je m'installe dans cet appartement. Derniers étages du building, et je travaille, ayant en principe sous la main tous les éléments dont j'ai besoin pour faire le livre. Mais rien, enfin si j'ai des notes, mais je n'ai rien, je n'écris pas au fur et à mesure, c'est-à-dire que je ne commence à rédiger que quand j'ai tout. Pour la bonne raison qu'il est rigoureusement impossible de s'y mettre avant. Enfin, c'est comme de... Je sais pas quoi, je connais rien au cinéma, mais quelqu'un qui commencera à monter un film avant d'avoir terminé de tourner les scènes, quoi. Je pense pas que ce soit possible. Enfin bon, peut-être, si, peut-être, tout est possible, mais... Moi, avant d'avoir recueilli l'ensemble des matériaux, je ne sais pas comment je vais les hiérarchiser, par exemple. Je ne sais pas, comme je m'efforce quand même en général, même si ce que j'écris, ce n'est pas à proprement parler des romans, je m'efforce quand même de bâtir des récits. Et donc, une fois que j'ai tout le bazar, quoi, en général, ça consiste principalement en carnet à spirale avec des notes, rien de très original. Bon, ce que j'utilise peut-être plus que d'autres écrivains, mais pas que tous, hein, parce que je pense que mon frère en utilise beaucoup aussi, Patrick Deville en utilise beaucoup aussi, etc. C'est des cartes, bon. Des cartes, des plans, et puis toute une documentation, enfin tout un fourbi quoi, de choses. Là, par exemple, en ce qui concerne ce livre Avenir, bon, une documentation considérable sur les chiens, souvent des choses absolument débiles, dont je suis à peu près sûr que je ne me servirai pas, mais on ne sait jamais. Quoi. Parfois, il y a un truc qui te paraît complètement con et qui, tout d'un coup, se révèle absolument nécessaire. Et au point que, justement, s'il est tellement con que je l'ai laissé à Paris, par exemple, en venant m'installer à Saint-Nazaire, je suis obligé de refaire un voyage pour aller chercher ce document apparemment inutile, dont il s'avère tout d'un coup que j'ai besoin.
C'est la voix de Jean Rollin en 2008 dans l'émission Surpris par la nuit sur France Culture, Jean-Yves Schnoz, qui parle de cette documentation. Je ne commence à écrire que quand tout est là, dit-il, et j'amasse des trucs, pour reprendre son langage, qui sont tellement cons que oui. Je suis capable de faire le trajet pour quand même aller les chercher parce qu'ils deviennent indispensables. Dans cette exposition, on voit qu'en effet, beaucoup de matière est amassée. On parlait tout à l'heure de la manière dont ça s'agrège avant l'écriture d'un roman. Est-ce que vous aussi, vous amassez des trucs complètement cons?
Oh, un paquet de conneries, oui, ça je... J'ai besoin de... Je me souviens, par exemple, là, Jean Rollin parlait de cette documentation
sur les chiens,
et je me souviens, il y a pas mal de temps, c'était pas mal d'années, je voulais qu'il y ait un roman qui se serve des mouches. Et là, j'ai passé un temps fou à chercher des choses, mais d'une... Exagérée, mais j'en avais besoin, parce que je me dis que j'allais peut-être dans une espèce de truc de zoologie... Je les ai gardés, ces livres aussi, j'aurais pu. Mais parce que je trouverais la bonne couleur des yeux pour une mouche, ou bien la description d'une patte qui me conviendrait. Alors que ça doit faire une demi-ligne, peut-être, dans le livre. Mais j'avais besoin de... À la fois, je dirais pas maîtriser les choses, chercher des mots, en fait. Souvent, c'est chercher des mots. Il m'est arrivé de rappeler quelqu'un que j'avais plus vu depuis très 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 longtemps pour lui demander de me rappeler un mot qu'il avait utilisé, que je cherchais, et j'ai pas pu écrire la phrase. À laquelle manquait ce mot avant qu'il me renseigne. Je me souviens, c'était le mot contagion.
Mais ça dit quoi? Ça dit un souci de véracité, de précision. Qu'est-ce que ça raconte, ça, de chercher tel mot, de ne pas pouvoir écrire avant que le vrai mot n'arrive?
Non, c'est le mot qui à la fois va être sur le plan sémantique le plus
adéquat,
le plus convenable, et qui en plus aura une espèce de résonance, de connotation possible, et puis de son. Et puis aussi un petit peu d'être toujours un petit à la fois dans ce qu'il désigne, et si possible être un peu à côté de ce qu'il désigne, pas être exactement dans le cadre. Il faut qu'il y ait aussi un peu de disharmonie dans tout ça. Enfin, c'est pas une loi que je définis.
C'est pour vous.
C'est pour moi, oui. C'est parce que je préfère quand ça cloche un peu. Je trouve que ça va mieux quand ça cloche.
et là-dessus, vous ne transigez pas. Quand vous dites « je n'ai pas pu écrire cette phrase tant que je n'avais pas récupéré ce mot » ou « je ne pouvais pas décrire cette mouche si je n'avais pas la précision de la couleur ou la pâte » ou exactement. C'est-à-dire que c'est la condition sine qua non pour l'écriture.
Bah, ça, non, c'est pas la condition absolue, mais c'est ça fait partie du bon, ça fait partie de cette espèce de fonctionnement névrotique qui s'empare de vous quand vous décidez de raconter une histoire, peut-être aussi. C'est au fond, c'est un peu pathologique de faire des choses comme ça, mais bon, ça fait partie des symptômes.
En vous écoutant, c'est comme si vous faisiez de l'écriture aussi votre propre aventure, votre propre roman d'aventure. Vous appelez quelqu'un que vous n'avez pas vu pour lui demander « Souviens-toi, le mot que... » C'est presque l'enquête.
Mais oui, c'est un peu l'enquête. C'est de... Bon, en effet, les histoires que je raconte, les romans que j'écris, c'est plutôt, si possible, du côté un petit peu de l'aventure. Et c'est pas mal. Dans le mouvement où on est construit, de se sentir quelquefois
pris
soi-même,
dedans.
Oui, un peu enquêteur, un peu cherchant des pistes, et puis de croire un instant qu'on devient au service de ce roman, qu'on devient soi-même un personnage romanesque, ce qui est un leurre, hein, ce qui est une illusion complète, mais c'est ça change un peu.
Ça change de quoi ?
Ça change de la vie quotidienne. Non, ça donne une espèce de relief, quoi, dans ce qu'on... C'est divertissant.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ces nuages gris. Je sais qu'il fait même la nuit. Comme moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues me faire parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu.
Tu es un fumeur de Havane. C'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis. Je le sais, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Sans elle, tu es malheureux. Au clair de la lune, ouvre les yeux. Pour l'amour de Dieu.
Tu es un fumeur de Havane. Tout près de toi, loin de lui. J'aimerais te garder toute ma vie. Comprends-moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Et la dernière, je veux la voir briller au fond de mes yeux. Aime-moi, nom de Dieu.
Ça a commencé tout de suite après le nouveau roman. À partir des années 60, je me suis dit, bon, bah, on a fait un bon travail, en effet, mais c'est probablement terminé, on ne fera plus rien maintenant. Et de fait, pendant 20 ans, entre 1957, qui est la date de publication du Vent de Claude Simon, et 1979, qui est la date de publication du Méridien de Greenwich de Jean Echenoz, on a fait très peu de choses. Il y a eu des choses, mais enfin...
Il y a eu même beaucoup de grands livres de Claude Simon,
ah non, mais
de Paget.
Je parle des nouveaux, des nouveaux écrivains que nous ayons publiés dans cette époque. Il y en a eu très peu. Il y en a eu très très peu.
Ah, vous avez eu le sentiment qu'au fond, vous aviez un groupe d'une petite dizaine d'écrivains que vous aviez suivi et que ça ne se renouvelait pas?
Ben non, je pensais qu'on était généralement l'éditeur que d'une génération. Ça, j'en étais presque persuadé à ce moment-là. Et j'ai été très surpris, et très agréablement surpris, je dois cette surprise à Jean Echenoz, de voir que tout à coup recommençait quelque chose de tout à fait différent, mais de quelque chose recommençait comme ça avec les années 80, et aujourd'hui il y a plus de jeunes écrivains aux éditions de Minuit, à mes yeux prometteurs, qu'il n'y en a jamais eu, et même à l'époque du nouveau roman.
Qu'est-ce qui recommençait, Jean Echenoz? Jérôme Lindon dit quelque chose recommençait dans les années 80.
Bah, ça, c'était son point de vue d'éditeur. Je me souviens, en effet, qu'il m'avait dit qu'il avait l'impression d'avoir accompli quelque chose avec ce qu'on appelait le nouveau roman, enfin, ce qu'on appelle comme ça, et que, oui, comme il le disait dans cet extrait, qu'il pensait que ça ne se faisait qu'une fois. Il me semble même qu'il m'avait dit qu'il pensait plutôt s'orienter vers la production cinématographique. Mais je n'en jurerai pas. Mais oui, il se trouve que c'était une maison qui, par rapport à... Enfin, dans sa production de précédente, avait une image très forte, et que cette image était forte pour moi aussi, même si j'étais pas un lecteur absolument assidu du nouveau roman, mais c'était Beckett, c'était bon, bref, et c'était aussi l'histoire politique de cette maison qui était impressionnante. Et bon, ben, j'étais très heureux de me retrouver dans cette maison-là. Et puis il est vrai qu'à ce moment-là sont arrivés en même temps que moi ou juste après des gens qui avaient à peu près mon âge, je veux dire, qui à l'époque, voilà. Et
à l'époque, quoi?
Ben, à l'époque, on était assez jeunes, quoi. Et enfin, relativement. Et puis quelque chose s'est passé. Oui, il y a eu des échanges entre nous, pas énormément d'ailleurs, mais ouais, une espèce de renouveau, je crois, de
d'un rapport nouveau, en tout cas nouvellement formulé à la fiction,
oui,
ou au
une
roman.
Espèce de façon un peu diverse, des déclarations d'amour au roman, quoi, à la fiction, même si quelquefois peut-être que l'étiquette minuit déforme un peu ça, tente à induire des considérations, enfin passe pour plus formel, formaliste, ce qu'elle est aussi, mais moi ça m'importe le formalisme. Mais avant tout, c'était un élan, oui, vers la fiction, vers les histoires, vers les personnages, les lieux, enfin vers le suspens du roman.
Parce que vous disiez tout à l'heure que finalement votre attachement à l'idée d'écrire était presque un attachement de la main, de dessiner des mots et de faire tenir des mots sur une page. Et à vous entendre, on entend que la déclaration d'amour que vous faites à l'écriture et au roman, elle tient aussi à l'idée de raconter des histoires. Elle tient pas seulement au fait de pouvoir les tracer, ces histoires, mais aussi de les porter, de les raconter, Jean Echenoz.
Ben, bien sûr, mais ça, c'est un peu indissociable. Il y a d'un côté le plaisir, oui, physique de tracer des choses, mais en amont et en même temps, l'idée de mettre en place une espèce d'organisation, d'inventer des personnages dont on s'aperçoit qu'ils vont pas, il faut les supprimer, les remplacer par d'autres. Bon, je veux dire qu'il y a une espèce de mobilité, un peu de grouillement comme ça dans la construction d'une histoire, avec les lieux, avec le temps, avec faut se mettre un peu soi-même en haleine, quoi, je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire.
Tout à l'heure, vous disiez une aventure d'une certaine manière, se lancer aussi dans l'aventure de l'écriture. Mais parce que quand on considère là, à la faveur de cette exposition ou à n'importe quelle autre faveur, ces 40 années d'écriture, ces 17 livres, forcément, on se dit, mais qu'est-ce qui fait qu'on recommence? Qu'est-ce qui fait que vous recommencez, Jean Echenoz? Vous disiez tout à l'heure, chaque nouveau livre, c'est le premier livre en moins libre presque. Mais donc il y a un feu qui n'est pas éteint, il y a un élan dont vous parlez qui n'est absolument pas tari. Alors pourquoi est-ce que vous écrivez?
Parce que je sais rien faire d'autre, pour autant que je sache faire ça, et parce qu'il y a que ça qui me paraît. Il y a que ça qui m'intéresse pratiquement, mais et aussi par le fait, oui, comme je crois que je vous disais, comme on a fini un livre, on a fini quelque chose, on se dit bah ouais, mais c'est pas encore ça. Alors ça, je sais pas ce que c'est, mais bon, faut encore essayer, quoi. Encore essayer, sinon ça vaut pas le coup.
Il y a la technique numéro 3, page 113. S'imposer une énumération, se remémorer par exemple tous les lits dans lesquels il a dormi depuis l'enfance, La tâche est importante, ça peut prendre du temps. Il trouve chaque fois de nouveaux lits dans sa mémoire et ça prend tellement de temps que ça en devient ennuyeux. Mais il peut compter sur cet ennui. Il n'y a pas le mais, c'est un tiret. Cela prend tellement de temps que ça en devient ennuyeux. Il peut compter sur cet ennui comme facteur soporifique. Objection. Cet ennui peut aussi maintenir Ravel à l'état de veille, l'amener à se poser des questions imprévues, ce qui le maintient en alerte. Puis il arrive aussi qu'il négocie mal, qu'une torfe... Aïe, aïe, aïe. Je lis plus bien, c'est fini. Je déchiffre de plus en plus mal. Puis il arrive aussi qu'il négocie mal, qu'une torpeur parfois s'installe à laquelle il faudrait céder, mais à laquelle justement il ne cède pas. Son désir de dormir est si fort qu'il observe trop nerveusement la survenue de la somnolence. C'est un peu ce qui m'arrive, même s'il peut la sentir imminente. Cette attention clinique empêche celle-ci de venir quand... Et quand elle est presque là, et tout est à recommencer. C'est qu'on ne peut pas faire tout en même temps, n'est-ce pas ? Enfin, c'est toujours la même chose. On ne peut pas s'endormir en surveillant le sommeil.
Mais on peut lire en commentant sa lecture et en faisant presque entrer sa propre langue dans la langue de l'autre. C'est la voix d'Olivier Cadio. Mmh. Quand on est au centre cet entrelac de cercle, de... Je ne sais pas, d'ailleurs, on n'a pas décrit ça, ce que c'était à la BPI. Bon. Je continue avec mon entrelac de cercle. Eh bien, il y a un autre cercle qui est un endroit où on peut entendre la voix d'Olivier Cadio déchiffrer Ravel et on l'entend parler au milieu de sa lecture. Il se trouve, Jean Echenoz, que dans plusieurs de vos livres, vous avez une forme d'adresse à des lecteurs ou à un lecteur, une forme d'invitation. Qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre Cadio qui pouvait être la voix de ce lecteur imaginaire, d'une certaine manière, auquel certains de vos paragraphes s'adressent?
C'était très précieux parce que je voulais absolument qu'Olivier Cadio soit là quand on m'a proposé de cette installation-là, dont je ne savais absolument rien au départ. Mais j'avais envie qu'il soit quelque part. Et je lui ai demandé d'intervenir. Ça pouvait être écrire quelque chose, dessiner quelque chose, faire un cut-up ou je sais pas quoi. Puis finalement, il a décidé d'intervenir de façon sonore en reprenant un de mes textes. Mais je voulais qu'il soit là parce que c'est un inventeur qui m'intéresse beaucoup. C'est quelqu'un qui fait un travail que je trouve très 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 très, enfin, très important pour moi et puis pour la littérature récente, comme il le dit lui-même. Non, parce qu'il est à la fois dans la poésie, la fiction, la réflexion, le son, beaucoup. Enfin, c'est un... Ça compte pas mal pour moi et puis pour beaucoup d'entre nous, je crois, le travail de Cadio.
Et ce qu'il propose, Cadio, et c'est d'ailleurs aussi le cas avec ses livres récents, là, il propose une réflexion sur la lecture en ce moment avec ses tomes. Il propose là une lecture de Ravel, qui est une lecture, c'est d'ailleurs l'extrait est assez bien choisi, quasiment somnolente, enfin comme ça, au ras du texte, dans une lumière qui n'est pas une lumière de clarté, de rapport même de clarté du lecteur vis-à-vis du texte. Est-ce que ça, c'est une lecture qui vous plaît, c'est-à-dire comme ça, un peu lâche, comme on dit, une écoute flottante, ce serait une forme de lecture flottante de vos textes, Jean Echenoz?
Oui, parce que c'est pas une lecture démonstrative, c'est pas une lecture éloquente, c'est une lecture qui a à voir avec celle du lecteur auquel quelquefois je pense, même si c'est un lecteur imaginaire, même si je peux avoir des moments où je peux faire intervenir un témoin, parler à ma place, faire semblant de parler à ma place, interpeller un lecteur éventuel imaginaire. C'est une affaire de profondeur aussi, de profondeur, je veux dire, de profondeur de champ, quoi.
Ouais.
C'est de donner du relief à ça. C'est pour ça que la lecture de Cadio elle m'intéresse beaucoup, parce que c'est pas une lecture
plane.
Non, voilà, c'est une lecture accidentée,
peuplée aussi, j'ai trouvé.
Oui. Et la lecture, c'est quelque chose qui est peuplé, accidenté, qui n'est pas linéaire et qui reconstruit toujours. C'est comme quand on va revoir un film, qu'on se dit, tiens, j'ai un très bon souvenir de cette longue séquence. Et la longue séquence, quand on revoit, c'est un plan de deux secondes. Bon, il peut arriver aussi l'inverse. Mais donc c'est ce truc de reconstruction par le lecteur d'un texte qui me touche beaucoup.
Bon, vous avez vu, on a mis du temps pour arriver au cinéma, mais là, j'ai l'impression qu'il s'invite, le cinéma.
Oh oui, mais comme je parle un peu toujours du cinéma, c'est... j'ai l'impression de...
Il s'invite dans cet endroit parce qu'il y a des films, des bouts de films, des images de films. C'était quand même impossible que le cinéma n'y figure pas.
Ah, c'était... Oui, c'était pas envisageable que le cinéma n'y figure pas, parce que il y a quelques extraits de films, il y aurait pu en avoir beaucoup d'autres, mais il y avait des problèmes de droit. Mais je voulais qu'il y ait certains extraits de films qui ont été pour moi des choses très très émouvantes, et puis aussi des images qui donnent envie d'écrire aussi, des images, des acteurs, des cadrages, des plans, des mouvements de caméra, etc., qu'on a envie d'un peu de reproduire, des émotions qu'on a envie de faire un peu naître comme ça.
Des moteurs.
Moteurs.
Merci beaucoup, Jean Echenoz. Les temps qui courent, quel livre garder toujours ouvert ?
Bouvard et Pécuchet.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vraiment ne vous fait plus peur ?
C'est drôle, c'est la première chose qu'on m'a demandé la première fois que je suis venu à la radio, France Culture. J'étais incapable de répondre.
Et maintenant ?
Toujours pareil.
Et par les temps qui courent, où marcher longuement ?
Dans l'immédiat, je vais marcher sur l'île aux Cygnes, comme quand je sors d'ici, jusqu'à la rue de l'Albonie, puis jusqu'au Trocadéro.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h. Ce soir au son, c'était Benjamin Vignal, à la réalisation Lise-Marie Barré, à la préparation Jeanne Aléos, Corinne Amard, Romain Debec de Lièvre. Vous pouvez retrouver l'émission sur la page de franceculture.fr. Et quant à moi, je réponds @MarieRicheux tout attaché sur Twitter.